Bonjour à tous et merci d'être venus pour cette dernier colloque. Pourquoi le dernier? Sur ce dernier colloque intelligence artificielle et médecine que j'organise, je co-organise avec Francis Besse qui est ici. Pourquoi le dernier? Parce que c'est ma dernière action au Collège de France en tant que professeur, vu que je suis à la retraite au 1er septembre. Et l'année dernière, on l'avait organisé donc dans l'amphi Albax. Il y avait des tas de problèmes de gens qui n'ont pas pu rentrer. Donc cette année, grâce aux vacances d'ailleurs, on a un plus grand amphi, on va en profiter. Voilà, donc on va parler d'imagerie médicale à l'heure de l'intelligence artificielle, défis et opportunités. Ça a été organisé par un comité de programme qui est assez proche de celui de l'année dernière, avec en particulier Francis Besse, donc, qui est le grand organisateur véritable, parce que moi je ne suis pas un pet médecin. Et voilà. Et donc on a des exposés assez disjoints aussi de ceux de l'année dernière pour compléter le tableau. Alors, je voudrais d'abord vous parler de divers aspects de l'informatique en médecine. N'étant pas médecin et n'ayant pas fait moi-même d'intelligence artificielle, je voulais dire quelque chose là-dessus parce que les médias ne parlent jamais que d'une chose à la fois. Il y a quelque temps, c'était l'impression 3D, il n'y avait plus que ça. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui est quelque chose d'extraordinairement important. C'est tout à fait clair, mais il n'y a pas plus que ça. Et le reste reste aussi. Et donc, je voudrais remettre un peu ça dans le contexte de l'informatique en médecine. Il y a une grande révolution de la médecine par tous les bouts, par l'informatique, qui n'est pas simple, parce que la plupart des médecins n'ont jamais été exposés réellement à l'informatique, et ça donne des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Alors, pourquoi ce n'est pas simple? Donc, j'ai fait un cours cette année qui s'appelle « Où va l'informatique ?». J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'hyperpuissance de l'informatique », où je parle beaucoup de ça. Et là, le cœur de la discussion, c'est ça. C'est que jusqu'à maintenant, je dirais jusqu'au début du 21e, pratiquement, pour le reste, pas pour les informaticiens, mais pour le reste du monde, le monde était formé, le monde scientifique et technique était formé de trois éléments, connus des Grecs, hein, la matière, l'énergie et les ondes. Ces trois éléments sensibles, la matière et l'énergie, c'est tout à fait sensible, et les ondes, grâce aux vagues, c'est très très sensible, puis on s'habitue facilement. Et puis au 21e siècle est arrivé un intrus qui existait déjà, qui est l'information et l'algorithme. Alors l'information, ça existait en médecine, bien sûr. Des résultats d'analyse ou une prescription, c'est jamais que de l'information. Mais c'était considéré comme quelque chose d'humain. Et ce qui va changer énormément, et aujourd'hui en particulier, c'est que l'information n'est pas forcément générée par les hommes. Loin de là, la plupart de l'information sur la Terre est générée par des machines. Et la grande difficulté pour beaucoup d'acteurs, c'est que ce n'est pas du tout la même chose que la matière, l'énergie et les ondes. Oui, ah, il n'y a plus de projecteur. Voilà. C'est pas du tout la même chose que la matière, l'énergie et les ondes. Vous aurez, j'espère, en sortant de ce colloque, beaucoup, beaucoup d'informations, mais vous aurez perdu de l'énergie et vous pèserez moins lourd. Hein, ça dépend du repas de midi, mais vous voyez, c'est, l'information, c'est pas du tout la même. Alors, les gens ont du mal à s'habituer. Par exemple, ils disent combien pèse mon fichier, qui est une expression parfaitement idiote. Il pèse le poids du support sur lequel il est, c'est pas l'information qui pèse. Et puis, ça se recopie parfaitement, ce qui va être fondamental en médecine, ça se copie parfaitement dans le monde entier, ce qui va permettre de l'analyser. Pour la matière, c'est plus dur. Alors, l'informatique, on la présente toujours comme formée de quatre piliers plus nous. Donc, les quatre piliers, c'est données, algorithmes, programmes et machines. Il y a une confusion constante entre programme et algorithme. Ce n'est pas du tout la même chose. Un algorithme, c'est un objet mathématique conceptuel, si on veut. Un programme, c'est tous les détails qui font qu'une machine absolument stupide va pouvoir calculer. Et les machines d'intelligence artificielle utilisées actuellement sont exactement aussi stupides que les machines que j'utilise depuis que je suis petit. Et donc, l'intelligence ne vient pas de la machine, elle vient de ce qu'on met dedans, c'est-à-dire des programmes. Et les programmes sont assez différents, en fait, on va le voir, entre l'informatique classique et ce qu'on fait maintenant en intelligence artificielle. Alors, en fait, ce qui se passe beaucoup, c'est que ce n'est plus que nous. Et en particulier, ici, j'ai mis les voitures, qui vont être des grands pourvoyeurs d'informations, mais les appareils médicaux. Alors ici, vous voyez une IRM, et une IRM, un appareil d'IRM, les gens pensent que, j'ai fait des enquêtes, hein, les gens pensent que c'est l'appareil directement qui fabrique l'image. Et évidemment, ce n'est pas vrai. L'appareil fabrique des données extrêmement compliquées et subtiles, et ce sont des algorithmes tout aussi compliqués et subtils qui fabriquent les images. Et maintenant, ça va être des algorithmes d'un autre type pour analyser ces images. Et c'est de ça qu'on va parler beaucoup aujourd'hui. Les produire et les analyser, ce n'est pas tout à fait le même problème. Encore qu'en photographie, on voit les algorithmes d'apprentissage automatique faire des choses tout à fait étonnantes sur l'exposition des photos ou des tas d'autres choses. Alors, ce qui fait aussi une différence entre l'informatique et la biologie qui sous-tend la médecine, c'est que la biologie, c'est affreusement compliqué parce qu'on n'a rien construit dans tout ça. Aucune des parties de votre corps n'a été désignée par un ingénieur quelconque, à ma connaissance. Et tout ça est extraordinairement compliqué. Alors qu'en informatique, on fabrique tout. Tout est limité par nos têtes, encore plus que par les machines, sauf peut-être pour l'apprentissage qui a été longtemps limité par les machines. Mais c'est pour ça que ça va vite, l'informatique, c'est que ça ne dépend que de nous, en quelque sorte, grâce aux physiciens qui nous donnent les circuits qu'il faut pour faire les calculs, ce qui est aussi très fort. Alors, l'informatique classique, celle que j'ai présentée dans tous mes cours ici, elle est très centrée sur algorithmes, programmes et machines, et sur le calcul, et beaucoup moins sur les données. Les données sont bien sûr présentes, mais je dirais qu'elles sont, en général, pas tellement nombreuses, et je n'ai pas parlé de bases de données. Serge Habitboul en avait parlé dans une chaire annuelle il y a assez longtemps déjà, mais ça reste toujours valable. Et l'informatique classique est soumise à, comme l'informatique médicale d'ailleurs, est soumise à quelque chose de tout à fait dangereux qui s'appelle le bug, et qui est toujours une erreur humaine. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'un logiciel tombe en panne. Ben non, un logiciel ne tombe jamais en panne. Un ordinateur tombe extrêmement rarement en panne, et un logiciel, jamais. Hein ? Par exemple, quand on me parle de la probabilité d'erreur d'un logiciel, je dis, ben, c'est 0 ou 1, soit il y en a, soit il n'y en a pas. Et les gens m'ont répondu des fois, dans des missions d'expertise que je faisais, oui, mais c'est idiot, la probabilité, c'est jamais 0 ou 1. Et je leur ai dit, mais quelle est la probabilité que le théorème de Pythagore soit vrai ? Ils m'ont dit, c'est une question idiote. Je lui ai dit, non, c'est la même que pour le logiciel. C'est la même. Le logiciel, ce n'est pas un objet matériel. Ça ne tombe pas en panne. Donc, il faut le faire bien. Et ça va être vrai aussi dans tous les domaines. Alors, en médecine, où est-ce que ça intervient ? D'abord, dans l'analyse d'image, bien sûr. C'est certainement rentré par là, avec les premiers appareils numériques. La collecte et l'analyse des données, le diagnostic, alors ça c'est plus compliqué, ça a été fait avec des systèmes experts, avec des succès mitigés, maintenant ça change sur l'apprentissage, mais c'est pas simple le diagnostic en médecine, ça j'ai compris, en ayant subi un certain nombre personnellement. La modélisation et la simulation des organes et du corps, ça c'est un domaine assez fantastique, qui est un mélange de mathématiques et d'informatique. Par exemple, pour le cœur, il y a eu des grands programmes, on va voir ça tout à l'heure. La radiologie interventionnelle, bien sûr, où on opère sur image, au lieu d'opérer sur patient, on opère fondamentalement des images, si on veut, on opère sur l'information, le patient, on ne le voit pas. Enfin, si, on le voit, mais ce n'est pas directement. Donc ça, c'est, si on dit sans informatique, c'est complètement impossible. Bon, les robots chirurgiens, la réalité virtuelle en chirurgie qui commence à être utilisée sérieusement, etc. Mais aussi Internet. Et là, il y a beaucoup de retard. C'est assez rare de pouvoir écrire un mail à son médecin encore. Hein. Ça n'a rien de fréquent. Hein. Je peux vous le certifier pour avoir beaucoup essayé. Mais il y a aussi des réseaux de soins, des réseaux de malades, des réseaux de pratiquants, les informations médicales qui permettent à tout un chacun de lire de Vidal et d'attraper instantanément l'ensemble des effets secondaires marqués pour chaque médicament, etc. L'instrumentation médicale, ça c'est vraiment important, parce que les problèmes de sécurité sont cruciaux à l'intérieur. L'appareillage des patients, donc des choses comme ce que j'ai dans les oreilles, ou les pacemakers que je n'ai pas encore, ou les pompes à insuline, je n'ai pas non plus, mais qui sont des choses qui ont fait des progrès absolument massifs avec le logiciel. Un appareil audio, ça ne marchait pas il y a 10 ans, il faut se rappeler. Hein, et maintenant, c'est fantastique. Voilà. Alors, il y a aussi la modélisation de la biologie. Là, j'ai mis simplement les protéines. Il y a énormément de travail là-dessus. Et pour ceux qui aiment le Collège de France, l'année prochaine, nous aurons un nouveau professeur sur la chaire informatique et sciences numériques INRIA, qui s'appelle Walter Fontana, et qui est un spécialiste de la modélisation des circuits cellulaires, des réseaux de protéines, la modélisation qualitative et quantitative de ce qui se passe dans notre corps dynamiquement. Et ça, c'est des sujets très nouveaux, super intéressants, qui ont un potentiel absolument énorme, mais qui sont complètement non triviales. Et on voit ici qu'une protéine, par exemple, c'est un objet fantastique au niveau de la géométrie. En chirurgie, par exemple, modéliser... Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Il y a encore une panne de projecteur, là. Bon, vous voyez une tétralogie de Fallot ici, c'est une déformation du ventricule. La chirurgie, c'est un point commun avec l'informatique, donc c'est couper-coller. Donc le principe de la chirurgie, c'est de couper et de recoller les deux bouts. Et le problème, c'est de savoir où coller. Et où coller, ça se fait soit au pifomètre, soit par de la simulation, de façon, dans le futur, je ne sais pas comment c'est à l'heure actuelle, mais dans le futur, bien plus précise, parce que notre pifomètre est quand même relativement limité par rapport à la puissance de calcul. Et alors, ce qui est vraiment important à comprendre, parce que ça, c'est un principe fondamental de l'informatique, c'est que quand vous simulez le cœur, un avion ou quoi que ce soit, vous supprimez la matière, vous supprimez l'énergie, vous supprimez les ondes, et la seule chose qui vous reste, c'est l'information. Il faut de la matière, il faut un ordinateur, il faut de la matière, de l'énergie et des ondes pour simuler, mais elles sont universelles, c'est-à-dire avec le même ordinateur, vous pouvez simuler tous les phénomènes du monde. Enfin, quand vous savez le faire. Et donc ça, c'est absolument essentiel dans le schéma mental de l'informatisation de la médecine. Et c'est pas du tout évident comme notion. Alors, il y a de gros problèmes en médecine avec la sûreté et la sécurité. Surtout la sécurité, ça je vais en parler. La sûreté, c'est l'absence de bugs. Alors, les appareils peuvent avoir des bugs. Et par exemple, il y a un cas historique qui a été très analysé, qui est le Terrac 25, une machine de radiothérapie qui a tué plusieurs personnes et gravement endommagé d'autres à cause d'un problème de logiciel dans le traitement d'une touche du clavier de l'appareil de l'opérateur. Ça a suffi pour tuer des gens. Enfin, les bugs informatiques sont redoutables et n'ont aucun sens de l'humour. Et la sécurité, qui est un sujet qui n'est pas du tout traité à l'heure actuelle, c'est complètement sérieux. Les virus, par exemple, en 2017, ont totalement arrêté le fonctionnement de 83 hôpitaux en Angleterre. J'en ai vu qui étaient obligés de se faire évacuer de leurs patients. Et pourquoi ? Parce qu'ils tournaient sous Windows XP, ce qui est une faute professionnelle grave, si on peut le dire, parce que même Microsoft dit que depuis 15 ans qu'il ne faut absolument pas tourner là-dessus. Et ce n'était pas que la compta et tout ça, c'était aussi des appareils. Les IRM, les appareils de radio, tournent souvent sur Windows XP. Les pacemakers ont été analysés en 2017 et il a été trouvé des milliers de trous de sécurité dans chaque modèle. C'est-à-dire que personne ne s'est jamais occupé de ça et le ministère de la Santé américaine a fait une injonction récemment à la Food and Drug Administration pour leur dire qu'ils passent des années à tester les médicaments, ils ne savent même pas qu'il y a du logiciel dans les appareils. Donc en médecine, il y a beaucoup, beaucoup de boulot d'informatique classique, ce qui n'est pas du tout ce dont on parlera aujourd'hui. Alors, quels sont les protocoles et organismes de certification ? Ça concernera évidemment tout ce qui se passe en médecine. Pour l'informatique embarquée, pour l'instant, il n'y en a pas. C'est assez simple. Il va falloir changer ça. Et le corps médical est-il vraiment au courant ? D'après ce que je vois, la réponse est non. Et là aussi, il y a du boulot. Bon. Ceci dit, ce qui se passe et dont on va parler aujourd'hui, c'est un recentrage sur les données. Et ça change absolument des façons de voir, c'est-à-dire, par exemple, ce que j'enseigne dans mes cours n'a rien à voir avec ça, et réciproquement. Enfin, si, un peu, mais pas beaucoup. Et donc, données et algorithmes, ça change parce que les données sont devenues extrêmement massives, même à l'intérieur d'une IRM, plus ou moins fiables, surtout à l'intérieur d'une IRM, analyse statistique, apprentissage profond, etc. Et vous avez eu deux cours, Yann Lequin qui va nous parler dans 3 minutes, je le remercie vraiment d'être venu, qui vient d'obtenir avec Joshua Bengio et Jeff Hinton le prix Turing 2018, qui est notre prix Nobel à nous, encore que Nobel n'était pas au courant. Et Stéphane Malat qui fait cours ici sur les mathématiques derrière l'apprentissage profond, ou la recherche des mathématiques derrière l'apprentissage profond. Alors ça fait des choses formidables, mais alors évidemment, dans tous les journaux, c'est entièrement magique et ça va nous réduire à l'état de poussière et tout, ce que je ne crois pas une demi-seconde. Et puis, il faut se méfier des imitations. Voilà un cas très intéressant. Il y a deux jumelles à l'ADN shockingly identical, dont l'ADN a été envoyé par Yale à 5 sociétés qui vous répondent vos origines. Et c'était vraiment marrant parce que les résultats sont quand même assez homogènes entre les deux jumelles, mais entre deux sites, alors là, ça n'a rigoureusement rien à voir. Et c'est très intéressant de voir que dans un cas, elles sont essentiellement dans les Balkans et que dans l'autre cas, Gris et Balkans, dans un cas, fait 23% et dans l'autre cas, il en fait 80%. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'on met des dollars dans le système qu'on ressort des informations. Donc, il va falloir faire très attention. C'est pas des bugs, c'est autre chose. Enfin, je sais pas, on peut appeler ça des bugs. Alors, et puis, enfin, l'interaction humain-algorithme, il y a encore plus de... C'est quoi ce truc ? Il y a encore plus de projections. Alors là, désolé, je vais regarder si j'ai pas un watchdog, mais je pense pas. Ah bon. Voilà. Pardon, l'interaction humain-algorithme, qui est évidemment très importante. Les algorithmes de diagnostic vont être disponibles sur Internet. Et donc, les gens vont arriver chez le médecin en disant « Moi, j'ai payé $40 et on m'a dit ça. » Donc, il n'y a pas de raison que je vous croie davantage. Parce que vous, c'est que $25. Et il va y avoir des questions très importantes là-dessus. On en a déjà parlé la dernière fois, d'ailleurs. Et l'explicabilité, donc, est un problème tout à fait important et que les gens essayent de traiter. Donc, en conclusion, je dirais que la médecine doit s'intéresser de près à l'informatique et pas seulement ce qu'on en dit dans les médias. Si ça ne marche pas, ça va être embêtant pour toute la journée, ça. Pas seulement à ce qu'on en dit dans les médias. Et l'intelligence artificielle va jouer un rôle important, les images vont jouer un rôle important, le diagnostic assisté bien sûr, mais aussi il va falloir comprendre les phrases, donner un vrai sens aux phrases, personnaliser la médecine et des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui doit évoluer très fort. Voilà, je vous remercie et je passe le micro à Yann Lequin, qui nous fait l'honneur d'être là et qui va nous parler une petite dizaine de minutes sur on ne sait pas.
Voilà, bon, ça marche. Encore une chance.
Merci de faire une petite place. C'est un petit peu à brûle pour point. Je passe à Paris et je suis un peu intéressé par l'imagerie médicale, bien que je n'y travaille pas personnellement. Mais il y a des mouvements intéressants dans le domaine de l'apprentissage profond qui, je pense, auront un gros impact dans le futur sur l'imagerie médicale. Et je voulais en parler un petit peu. Merci de me donner quelques minutes pour en parler. La plupart de ce dont on entend parler aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle, ça veut dire le deep learning et surtout ça veut dire l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire la méthode par laquelle on entraîne une machine à produire une réponse pour une entrée donnée. Donc ça marche très bien pour la reconnaissance d'images, pour la reconnaissance de la parole, pour la traduction, etc. À partir du moment où on peut collecter assez de données pour entraîner la machine, par exemple, à distinguer des images d'avions, de voitures, ça va. Mais il faut des milliers d'images, quelquefois des dizaines de milliers d'images de chaque catégorie. Et donc, dans le cas de l'imagerie médicale, pour la détection de tumeurs, par exemple, c'est un petit peu difficile de collecter assez d'images. Et en fait, ce qui limite un peu les progrès dans ce domaine-là, c'est l'acquisition des données et surtout leur disponibilité, étant donné que ce sont en général des données sensibles et privées. Alors, il y a beaucoup d'efforts de par le monde pour la collection de ce genre de données, mais il y a toujours des cas dans lesquels la distribution, on n'aura jamais assez de données en fait, pour entraîner ces modèles. Alors, donc, l'apprentissage supervisé marche bien, surtout en vision par ordinateur, où on a fait d'énormes progrès simplement ces dernières années à l'aide de l'apprentissage profond. Mais disons que l'avènement de l'apprentissage profond dans la vision par ordinateur date d'environ 2013. Les gens ont commencé à vraiment s'intéresser à la question en 2013, bien que les techniques, bien sûr, existent depuis très longtemps. Depuis ce temps-là, il y a eu tellement de gens qui ont commencé à s'intéresser à la question qu'il y a eu d'énormes progrès très rapides. Je vais vous donner quelques exemples, donc pas dans le domaine de l'imagerie médicale au début, mais j'en parlerai un petit peu par la suite. Donc, par exemple, des systèmes qui peuvent non seulement reconnaître des objets dans les images, mais aussi détecter des objets multiples, détecter des instances multiples du même objet, de la même catégorie, et puis en fait étiqueter l'image complète, y compris la production de masques en fait, qui délimitent chacun des objets. Donc on appelle ça la segmentation sémantique ou la segmentation d'instance. Il y a plusieurs techniques pour ça. Les exemples que je vais vous montrer viennent de Facebook Air Research, un petit groupe en Californie qui travaille sur la vision. Donc ça combine des techniques. Une technique s'appelle MaskRCNN, qui est un réseau convolutif un peu modifié, et puis RetinaNet, qui est aussi une autre version, un autre type d'architecture de réseau convolutif. Donc le type de résultat qu'on peut obtenir, c'est des choses comme ça, où chaque objet est délimité et identifié. On peut aussi faire une boîte autour, mais ça, c'est relativement simple. Les méthodes les plus récentes, en fait, peuvent aussi étiqueter les objets de fond, c'est ce que c'est, de l'herbe, du ciel, etc. Donc ce qu'on appelle la segmentation sémantique panoptique. Donc ça marche vraiment bien. C'est pas parfait, hein, c'est loin d'être parfait, mais ça marche vraiment très bien. Il faut pas mal d'exemples d'apprentissage, mais disons, c'est dans des limites raisonnables. Alors, ce genre de techniques un petit peu de ce genre-là peuvent être utilisées pour l'imagerie médicale. Donc ça, c'est tiré d'un article de certains de mes collègues à NYU, à l'École de médecine et dans le département d'informatique et le Center for Data Science, qui est un centre que j'ai créé il y a 6 ou 7 ans. Donc ça utilise une architecture particulière de réseau de neurones qu'on appelle UNET ou Feature Pyramid Network, enfin, c'est un peu similaire, où l'image en fait est traitée par des couches successives de résolution de plus en plus faible qui prennent un contexte de plus en plus important, et puis ensuite un autre réseau qui est un peu la structure inverse construit une image de même résolution que l'image d'entrée mais qui contient un étiquetage de chacun des pixels avec la catégorie de l'objet auquel appartient le pixel. Donc si on a par exemple une image d'un, je pense que c'est un fémur, enfin ça doit être une hanche en IRM ici, ce genre de réseau peut produire des images de ce type là où chacun des objets intéressants dans l'image est étiqueté avec une étiquette différente. Donc ça c'est assez utile. En l'occurrence, les co-auteurs de l'École de médecine sont des rhumatologues. Un autre travail avec un petit peu la même équipe, ou disons une grande équipe, là, beaucoup de gens qui sont à l'École de médecine de NYU et au département d'informatique et au Center for Data Science. Là, c'est une étude dans laquelle, je pense, ils utilisaient une des plus grosses bases de données qu'ils ont collectées eux-mêmes pour la détection de tumeurs tumeurs du sein. De cancer du sein. Donc ça utilise une collection de techniques toutes basées sur le deep learning et les réseaux convolutifs, une technique qui simplement classifie l'image globalement, c'est-à-dire on lui donne quatre images qui sont les quatre images de chacun des deux seins dans deux angles différents, et puis on l'entraîne simplement à donner une réponse globale, un score, est-ce que c'est bénin, malin, ou est-ce qu'il n'y a rien du tout. Et puis, simultanément, un autre réseau qui, lui, fait cette segmentation sémantique, c'est-à-dire qu'il essaie de localiser la tumeur en produisant une carte, une espèce de carte de chaleur, quoi, on appelle ça comme ça. Donc, c'est des travaux très récents. Ils ont aussi complètement distribué le code pour faire ça et la base de données qu'ils ont utilisée pour l'entraînement. Donc, c'est très utile parce que ça permet à d'autres gens, en fait, non seulement de reproduire les résultats, mais peut-être d'améliorer les méthodes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent, en fait, maintenant, dans le domaine du deep learning, où les gens partagent leurs données et leur code. Ce n'est pas encore très répandu dans le domaine de la médecine, bien sûr, à cause de... en particulier de données privées, mais aussi un peu de l'habitude des gens qui sont un petit peu protecteurs de leurs données. Là, en l'occurrence, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir de progrès rapide s'il y a plus de partage en fait, dans les données et dans les méthodes. Alors c'est ce genre de carte que produit le système. Ce que vous voyez ici, c'est deux panneaux qui correspondent à deux cas différents. La colonne de gauche correspond à l'étiquetage qui a été produit par plusieurs experts humains, je pense qu'il y avait 14 radiologues. Et puis, une espèce de carte produite par la machine qui est au milieu, et puis, les deux cartes produites par la machine, une qui est une espèce de carte en vert là, qu'on voit, qui indique les zones qui sont bénignes. Et puis une autre qui est plutôt en rouge, qui indique les zones qui sont possiblement malignes. Et puis en combinant un peu ces scores, on arrive à identifier les endroits qui sont suspects. Donc là, en l'occurrence, sur la partie sur le cas de gauche, ce qui est indiqué en jaune est une tumeur bénigne que le système détecte et identifie comme une tumeur maligne possible, mais sans vraiment être très sûr. Et puis à droite, il y a en fait deux tumeurs, une bénigne et une maligne, et qu'on voit en haut, on en voit une des deux en bas, et qui sont détectées aussi de manière un petit peu... disons, il n'y a pas une grande confiance sur la détection. Mais ce système marche relativement bien, en ce sens que quand il est combiné avec un expert humain, la fiabilité est supérieure au système automatique par lui-même ou à l'expert humain par lui-même, ou par elle-même. Un autre projet qui, lui, était en collaboration avec toujours l'école de médecine de NYU, mais avec, cette fois-ci, Facebook. Donc, Facebook n'a pas d'intérêt commercial, quoi que ce soit, en imagerie médicale, mais étant donné qu'on a développé des techniques assez performantes d'analyse d'image, on pensait pouvoir apporter quelque chose au domaine en collaborant avec des médecins. Donc là, le projet était d'accélérer l'IRM, c'est-à-dire... un examen d'IRM prend pas mal de temps et donc du coup est cher parce que ça occupe une machine assez complexe pendant assez longtemps. Et la question est-ce qu'on peut réduire le temps de collection de données dans une IRM en sous-échantillonnant en fait les données, c'est-à-dire en prenant simplement moins de données. Donc ça c'est fait par sous-échantillonnage du K-space. Je sais même pas comment on dit K-space en anglais, en français. Pardon?
Espace K.
Espace K, bon, voilà. C'est facile. Ouais, parce que j'aurais dû... parce que c'est les ondes longueur... Enfin bon, bref. Donc vous avez un petit diagramme, là, en bas à gauche, que je ne vais pas expliquer, qui indique les parties de l'espace K qui sont utilisées, celles qui ne le sont pas. En fait, on peut faire ça permet d'accélérer la collection de données dans la machine. Et puis on passe ça encore dans un de ces réseaux... disons, qui lit une image et qui produit une image. Mais là, le but est de nettoyer l'image, en fait, c'est-à-dire de prendre l'image brute dans l'espace K et de produire la reconstruction. Et si on compare ça, bon là, c'est un petit peu difficile à voir, surtout avec l'éclairage, mais si on compare ça avec des méthodes un peu classiques basées sur la variation totale, la qualité d'image est bien supérieure. Bon, là, vous avez peut-être un petit peu de mal à voir. Ah, peut-être faire... Voilà. Donc, l'image de droite est de bien meilleure qualité que l'image du milieu. L'image originale est celle qui est produite à partir de l'espace K complet, est à gauche. Encore un autre exemple de ce côté-là. Donc, tout ça, ça utilise l'apprentissage supervisé. Et le problème de ça, c'est que l'apprentissage supervisé nécessite beaucoup de données. Et limite un peu les progrès, comme je l'ai dit auparavant. Donc, ce que je voudrais, le message principal que je voudrais faire passer, c'est le fait qu'il y a énormément de travaux vraiment intéressants, qui sont encore un petit peu au tout début, disons, mais sur ce qu'on appelle l'apprentissage auto-supervisé, self-supervised learning en anglais, qui consiste à en fait, entraîner une machine avec les données elles-mêmes, c'est-à-dire non pas entraîner une machine sur une tâche particulière, mais entraîner une machine à capturer les régularités dans les données elles-mêmes. Donc, ça consiste par exemple à avoir. Une donnée unique, disons un segment vidéo ou une image en 3D d'une IRM ou quelque chose comme ça, et de supprimer une partie de ces données et d'entraîner la machine à prédire la partie supprimée de la donnée à partir de celle qu'on observe. Et ça permet à la machine en fait de capturer les régularités internes des données. Et ça utilise beaucoup plus de données en fait, que simplement une tâche particulière de classification en deux ou trois classes, comme c'est le cas dans la détection de tumeurs. Donc, en fait, les systèmes d'apprentissage de ce type-là marchent beaucoup mieux quand on leur fait prédire plus de choses que simplement une classe par image. Il y a besoin de beaucoup moins d'images pour que ça fonctionne. Alors, la raison pour ça, en fait, tient simplement au fait que la quantité d'informations qu'on demande à la machine à prédire est beaucoup plus important dans le cas de l'apprentissage auto-supervisé que dans le cas de l'apprentissage supervisé, qui est simplement pour une tâche très étroite. Là, on lui demande de prédire énormément d'informations qui seraient, par exemple, les trames futures d'une vidéo à partir du passé, ou qui seraient la partie gauche de l'image à partir de la partie droite, ou la couleur à partir du noir et blanc, etc. Alors, ce genre de technique d'apprentissage auto-supervisé fonctionne extrêmement bien en traitement de la langue naturelle. La technique standard, maintenant, qui est devenue standard, en fait, ces mois derniers, parce que les techniques apparaissent très récemment, mais elles sont capturées instantanément par la communauté si elles marchent bien. Donc, une technique, par exemple, qui s'appelle BERT, qui vient de Google, pour entraîner un système de reconnaissance de traitement de la langue naturelle, comme par exemple la traduction, des choses comme ça, consiste à prendre un segment de texte. On a un corpus de texte assez énorme, on prend un segment d'un millier de mots, par exemple, on enlève 15% ou 20% des mots, et on entraîne un grand réseau de neurones multicouches à prédire les mots qui manquent. Donc il n'y a aucune tâche à accomplir, simplement reproduire ou reconstruire la partie des données qui a été retiré. Et le système, de ce fait, s'entraîne à capturer en fait la structure interne du domaine. Et donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est prendre les représentations internes apprises par le réseau de cette manière comme entrée d'un système qui lui-même est supervisé pour faire, par exemple, de la traduction ou la classification de texte ou quelque chose comme ça. Alors la question, c'est peut-on reproduire ces résultats-là dans le domaine de l'image? Et la réponse, pour l'instant, est pas vraiment. Il y a des travaux sur la question, donc par exemple, qui consistent à entraîner un système avec des images en noir et blanc et l'entraîner à prédire la couleur. Donc le système doit un peu comprendre ce qui se passe dans l'image pour pouvoir prédire la couleur. Évidemment, on a des données à n'en plus finir pour entraîner ce système-là. Il y a d'autres techniques pour lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça marche un peu, mais pas vraiment très bien encore. Ça marche un petit peu mieux dans le domaine de l'audio. Donc, il y a des travaux très très récents en fait qui sont peut-être même pas encore publiés, qui consistent à entraîner un système qui fait la reconnaissance de la parole, en fait, à prédire des segments de parole. C'est très similaire au système de traitement de la langue naturelle, dans lequel on retire des segments du signal et on entraîne le système à prédire ces segments qui manquent. Donc, c'est pas du tout un problème de reconnaissance de la parole. Mais ensuite, on utilise les représentations ou le réseau pré-entraîné de cette manière-là pour initialiser un réseau qui, lui, fait la reconnaissance de la parole et les performances sont améliorées. Donc tout ça, c'est très prometteur. Il y a beaucoup de travaux sur la question et je pense que ça va avoir un gros impact sur l'imagerie médicale parce que ça va permettre d'entraîner des systèmes à comprendre ce qu'il y a dans les données sans vraiment les entraîner à une tâche particulière et donc, par la suite, à nécessiter beaucoup moins de données quand on voudra les entraîner pour une tâche particulière. D'autres exemples de travaux dans le domaine qui consistent à faire ce qu'on appelle du in-painting, donc à supprimer une partie d'une image et puis entraîner un système en fait, à prédire ce qui se passe dedans. C'est un petit peu le même problème dont j'ai parlé précédemment pour la reconstruction d'IRM à partir d'images sous-échantillonnées. Donc voilà, beaucoup de travaux sur la question, sur la prédiction vidéo, qui sont un petit peu sur la même chose. Ça utilise des modèles qu'on appelle les modèles génératifs, en particulier un type de modèle génératif qui s'appelle des modèles génératifs à variable latente, en particulier ce qu'on appelle les GAN, les Generative Adversarial Networks. Donc tout ça, c'est très prometteur, il y a beaucoup de travaux sur la question. C'est encore un petit peu primitif, mais je pense que d'ici 5 ans, ou d'ici même moins que ça, il y aura beaucoup d'applications dans ce domaine-là, dans l'imagerie médicale. Voilà, merci.